Il arrive parfois qu'à compétences égales, deux individus réagissent différemment face aux défis qu'on leur pose. L'un va foncer et sera convaincu qu'il peut y arriver, tandis que l'autre va douter de lui-même. Le sentiment d'efficacité personnelle, mieux connu sous l'acronyme SEP, ou CEP, c'est justement cette conviction qui colore notre perception des défis et influence nos chances de réussite. Avec les transformations rapides et les défis qui bousculent l'enseignement supérieur, le sentiment d'efficacité personnelle devient un véritable levier d'adaptation. Il aide autant les professeurs que les apprenants à garder confiance en leur capacité à évoluer et à réussir. Pour un CP, comprendre ce concept et savoir le cultiver est un vrai atout. Mais comment on fait pour développer ce sentiment chez soi? Et comment aider les professeurs à le nourrir pour qu'ils puissent à leur tour renforcer cette confiance chez leurs étudiants? Dans cet épisode, on explore cette approche qui permet de transformer l'échec en opportunité d'apprentissage.
Les beaux rôles avec Géraldine Lucier.
Dans le cadre de porte, j'ai le privilège d'échanger avec deux collègues inspirants, Marie-Noëlle Corriveau-Tendland, CP au Cégep de Lévis, et Alexandre Dalpan, CP à l'Université Laval. Bienvenue!
Allô?
Bonjour!
C'était quoi ton premier contact avec le sentiment d'efficacité personnelle, Marie-Noëlle?
Pas nécessairement tant mon premier contact que comment je l'ai perçu que c'était important pour moi, c'est en devenant mère, en fait, en regardant mes enfants aller. Tu sais, j'essaie de leur donner, en fait, des opportunités de se sentir capable de tout faire tout le temps. Puis là, en même temps, je veux pas leur mettre une pression indue. Mais tu sais, c'est un peu ça, dans le fond, que j'essaie de développer chez eux, chez mes trois enfants, en fait. Plus professionnellement, mettons, c'est vraiment dans le cadre d'un cours performant que j'ai lu, là, tu sais, de façon plus théorique sur le concept de CEP. J'ai lu sur comment soutenir le sentiment d'efficacité personnelle des profs. Même dans un travail que j'avais fait dans ce cours-là, j'avais fait un lien entre les différents éléments de la relation d'aide, parce que c'est un peu ça qu'on fait, dans le fond, dans notre travail, et différentes façons de développer le sentiment d'efficacité personnelle. C'était vraiment super pertinent. Moi, ça m'habite là, vraiment là, depuis. Là, t'sais, je cherche vraiment toujours à travailler sur le sentiment d'efficacité personnelle des profs là, quand je travaille avec eux. Fait que c'est vraiment mon premier contact.
Moi aussi, c'est lors d'une, pas un cours universitaire, mais une formation au collège l'année passée. Donc, c'est quand même assez récent. Puis, j'ai trouvé ça vraiment pertinent pour nous comme CP, mais aussi pour les profs. Puis, comme nouveau CP, j'avoue qu'on a souvent le syndrome d'imposteur. Fait qu'un CEP élevé, bien, je pense que ça permet vraiment de mieux traverser là, cette période-là qui est un peu trouble au début.
Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai dû apprendre aussi à vivre avec ce fameux syndrome. Au début de ma carrière, peut-être, j'étais bien conscient de mes forces, mais également de mes défis. Dans un domaine qui était totalement nouveau, là, j'avais pas eu de formation particulière là-dessus. Du coup, mon SEP était variable d'un jour à l'autre, en fonction des mandats qui m'étaient donnés. Pas toujours à l'aise, mais bon, fallait aimer le défi pour ça. Puis c'est sûr que après, tu prends conscience avec le temps que ce sentiment-là, il est influencé directement par ton niveau de connaissance, tes compétences, ton sentiment de compétence, ta confiance dans ce que tu fais. Il y a le temps pour s'atteler. On est tous dans le rush un petit peu. On n'a pas beaucoup de temps pour faire beaucoup. Les échecs que tu vis, puis des fois le regard des autres aussi, les mots qu'ils te donnent et autres. Tout ça, ça joue. Fait que c'est difficile d'être constant dans son SEP au travail. Je pense que c'est normal en tant que tel.
C'est vraiment un concept qui nous aide à mieux comprendre là, les agissements, autant des profs que des étudiants. Mm-hmm. Le CEP là, d'une personne, ça va vraiment influencer ses comportements. Puis les profs, ça va influencer leur pratique enseignante. Comme un prof qui est vraiment motivé, positif, ben, ou versus un prof qui va plus critiquer les élèves, ben, ils ne vont pas trouver non plus les mêmes solutions. Puis aussi, ben, l'incapacité à changer, des fois qu'on peut voir quand on accompagne certaines personnes, c'est souvent lié à un CEP qui est un peu plus faible. Donc, sachant ça, ben, je trouve que nos interventions ne seront pas nécessairement les mêmes.
Mm-hmm. Effectivement, là, Géraldine, écoute, par exemple, quand on reçoit un mandat, un nouveau mandat comme CEP, hey, ça se peut que ce soit un sujet sur lequel je me sens pas solide, je suis pas trop certaine. Mais tu sais, est-ce qu'un mandat sur lequel je sens que j'ai pas de contrôle, ça va nécessairement anéantir complètement mon sentiment d'efficacité personnelle? Pas nécessairement, en fait. Ça se peut que je vive l'expérience super positivement. Puis ça va venir le renforcer parce que là, je vais m'être dépassée finalement dans ce nouveau mandat-là. C'est comme une espèce de boucle positive dans laquelle on s'embarque. Tu sais, je me suis donné un défi, puis c'est venu renforcer mon sentiment d'efficacité personnelle. Avec les profs avec qui on travaille, ben on va leur donner de la rétroaction dans les mandats dans lesquels on les accompagne. On va venir renforcer leur CEP. Puis on espère en même temps qu'on va modéliser un petit peu pour qu'ils fassent la même chose avec leurs étudiantes et leurs étudiants.
Tout à fait. Puis c'est ce qu'on veut, au final. Tu sais, ça me fait penser un peu à l'effet Pygmalion, là, où faut qu'on croie que les étudiants sont capables de faire quelque chose, sont capables de réussir, puis de leur faire prendre conscience en tant que prof qu'ils sont capables de le faire. Ça permet de renforcer le SEP. Puis c'est pareil pour un CP qui accompagne un prof. Hein. Quand tu crois en le prof puis que tu lui fais comprendre qu'il est capable, ça marche. Puis parce que chaque prof a quand même un SEP variable par rapport à l'un ou à l'autre. C'est comme nous, là, chaque jour, on a nos journées, on a nos compétences, puis ça teinte cruellement nos interactions quotidiennes avec eux. Là. Puis il faut pas oublier que le métier de CP, comme on dit, c'en est un de l'humain. Fait qu'on a quand même une touche particulière. Faut comprendre ce SEP pour comprendre pourquoi les personnes vont réagir de telle ou telle façon face à une situation, que ce soit professionnelle ou personnelle, parce que les deux sont imbriqués, vous le savez, hein, ça arrive souvent.
Vraiment.
Puis ça peut quand même donner des pistes d'action pour mieux les accompagner puis les aider.
Avez-vous vécu certaines difficultés en lien avec ce concept-là lors de vos accompagnements, Marie-Noëlle?
J'ai pas d'exemple vraiment précis en accompagnement, OK? Mais on l'a mentionné, le CEP, il peut être fragile parfois. Fait que notre défi, je pense, dans l'accompagnement, c'est d'être franc et transparent quand on donne de la rétroaction, par exemple, à aux profs qu'on accompagne, mais aussi de le faire de façon à valoriser leur réalisation, sans mettre trop d'emphase, tu sais, puis avoir de l'air jovialiste non plus. Donc, c'est comme une espèce d'équilibre, parce que des fois, quand ils ont des choses à améliorer, il faut être capable aussi de leur dire. Puis quand on accompagne un groupe d'enseignants, d'être capable de valoriser, oui, les réalisations de certains, certaines, ça va permettre d'augmenter leur sentiment d'efficacité personnelle. Mais il ne faut pas non plus comme aller les mettre sur un piédestal puis faire en sorte que d'autres autour vont voir ça comme un idéal inatteignable. Puis là, ça minerait.
Ouais, tout à fait. C'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver, je te dirais, dans l'accompagnement en tant que CP. Puis là, moi, je le vois, je pense à certaines discussions que j'ai eues informellement avec des profs qui avaient des doutes sur leur pratique. Là, des sujets souvent très sensibles, hein, vous en connaissez sûrement, mm-hmm. là, des proximités, mm-hmm. on apprend des affaires, puis... Ça demande beaucoup d'humilité, d'ouverture de la part des profs. Tu sais, faut l'accepter comme ça. Mais le SEP, ça touche quand même au plus profond de la personne. Fait ça, faut le comprendre, faut l'accepter. Mais avec ça, ça me fait penser à un autre point en tant que CP. Faut être capable d'identifier ce qu'on appelle les bases de pouvoir formelles et informelles pour pouvoir agir finalement comme il faut dans un projet pour accompagner quelqu'un. Parce que on peut pas agir sur tout, puis on doit pas agir sur tout non plus. On a un carré de sable aussi dans lequel on peut jouer. Puis finalement, on est beaucoup plus efficace quand on sait où est-ce qu'est notre place, comment passer à l'action. Puis on a un sentiment de contrôle là-dessus pour mieux orienter un projet. Et ça, c'est primordial, je pense, pour que le SEP soit positif et bien construit au bout de ligne.
On s'entend que c'est un sujet qui peut quand même être délicat à aborder là, avec les profs, vraiment. Parce qu'on rentre dans le personnel quand on aborde le CEP. Donc, il faut encore une fois avoir développé un certain lien de confiance. Mais en revanche, je trouve que d'en parler avec les profs de celui des étudiants, ben, ça peut être une belle porte d'entrée pour vraiment. Finalement aborder le leur. Au même titre que le CEP des élèves a un impact sur leur attitude face à leur apprentissage, ben, le CEP des profs va aussi avoir un impact là, sur leur pratique également.
Clairement. Oui, vraiment.
C'est un sujet très intéressant qui suscite beaucoup de réflexions. Je suis bien contente d'avoir pu en discuter avec vous. À bientôt!
À bientôt!
Bye, merci!
J'accueille maintenant Amanda Argenteau, conseillère pédagogique au Collège John Abbott depuis 4 ans. Elle s'intéresse particulièrement au lien entre le sentiment d'efficacité personnelle et la pleine conscience. Fait intéressant sur Amanda, elle habite dans une maison qui est plus vieille que le pays et elle soupçonne qu'elle est hantée. Bonjour Amanda.
Bonjour, seulement légèrement hantée, je dirais.
OK, donc je n'ai pas à m'inquiéter. Tu es seule aujourd'hui?
Je suis venue seule, oui.
Super. Amanda, pourquoi tu t'intéresses au sentiment d'efficacité personnelle?
Alors, je dirais que j'ai un parcours académique assez différent de la plupart des CP que je rencontre. J'ai fait mon bac en psychologie, ma maîtrise en psychologie et en sciences de l'éducation. Avant de venir CP, j'animais des ateliers sur le bien-être et la gestion du stress au premier cycle universitaire.
Oh.
Alors, c'était un programme de prévention de burn-out, on peut dire, pour les étudiants en stage en enseignement au primaire et au secondaire. Tout ça pour dire, j'ai toujours été intéressée par les concepts psychologiques et leur application dans le domaine de l'éducation, mais surtout, comment on peut appliquer ces concepts dans notre vie personnelle et professionnelle. Alors, en tant que CP, notre sentiment d'efficacité personnelle est extrêmement important parce que c'est un rôle qui est souvent appelé à trouver des solutions. Et si on ne croit pas sincèrement et profondément à notre habileté à surmonter certains défis, ça va être difficile de réussir dans le rôle.
Et comment en es-tu venu à faire le lien avec la pleine conscience?
Je vais commencer par définir la pleine conscience parce que tout le monde a des définitions différentes. Alors pour moi, la pleine conscience, c'est payer attention au moment présent, intentionnellement et sans jugement. Le lien avec le SEP, pour moi, se fait quand on vit des expériences, qu'elles soient positives ou négatives, et on se force à être présent dans ces moments, sans jugement, ce qui peut être inconfortable parfois.
C'est pas toujours facile, en effet.
Définitivement. Alors, c'est inconfortable de se laisser apprécier ou célébrer notre succès ou même de se donner du temps de vivre une situation d'échec. la pleine conscience nous montre que nos émotions ne sont pas permanentes. En gardant les deux concepts ensemble, le SEP et la pleine conscience, on peut voir qu'on a vraiment besoin de la pleine conscience pour améliorer et supporter notre sentiment d'efficacité personnelle.
On parle souvent de l'importance d'une approche holistique. Comment les différentes sphères de notre vie vont influencer notre sentiment d'efficacité personnelle?
C'est tout à fait normal que notre SEP nous vient plus facilement dans un domaine de notre vie plutôt qu'un autre et que ça peut changer. Alors, c'est important de balancer notre SEP dans nos différentes sphères de vie, même si c'est difficile à faire. Je crois qu'on a toute l'expérience que les choses vont extrêmement bien au travail, mais peut-être dans notre vie personnelle moins bien ou vice-versa. Alors, on a tendance à se lancer dans ce qui est plus facile à faire parce que le succès, ça fait du bien. On ne grandit pas en tant qu'humain quand on a tendance à faire ça. Surtout, notre efficacité personnelle ne grandit pas si on ne se donne pas les défis. Alors, c'est important de continuer à se donner des petits défis et de se motiver à les accomplir, même si ça nous vient moins facilement.
Amanda, c'est quoi tes trucs ou les moyens efficaces que tu prends pour consolider ton sentiment d'efficacité personnelle?
Alors, j'ai deux trucs que je trouve fonctionnent bien pour moi. Le premier, c'est d'avoir des expériences de succès. Plus on a du succès, plus on croit en notre habileté de continuer d'avoir du succès. Pratiquement parlant, on a souvent tendance à repenser, à ruminer toutes nos gaffes. En anglais, on appelle cette tendance le « negativity bias okay. ». Tout le monde en a un. Moi, je garde un fichier que j'appelle mon portfolio de succès où je dépose des projets qui sont bien passés, des courriels avec des mots de félicitations ou d'encouragement, et ça m'aide à me rappeler de mes expériences de succès plutôt de toujours repenser à ce que je pourrais mieux faire.
Oh, très bon truc, ça, j'aime ça.
Le deuxième, c'est important de non seulement de se rappeler de notre propre succès, mais j'essaie de m'entourer avec d'autres personnes qui réussissent dans leur domaine, même des domaines différents, pas seulement en conseil pédagogique. C'est extrêmement important de ne pas virer dans la jalousie. Il faut admirer et s'inspirer du succès des autres et d'essayer d'apprendre quelque chose sur le parcours. Alors, je trouve que les communautés de pratique nous offrent de très bons exemples de succès. Et ce qu'on réalise avec cet exercice, c'est que ce n'est pas facile. Tout le monde a des obstacles. Alors vraiment, ça vient normaliser la lutte un peu contre les obstacles et nous montre que ce n'est pas parce que quelque chose est difficile qu'on n'est pas compétent ou capable. On fait des choses difficiles parce qu'on est compétent et parce qu'on est capable.
OK. Et comment tu accompagnes tes collègues professeurs dans le développement de leur propre sentiment d'efficacité personnelle?
Je me considère une personne extrêmement transparente et je crois que c'est une qualité importante pour les CP. Alors, quand je reçois un courriel d'un enseignant qui envisage un nouveau projet ou une question, je suis honnête si je ne connais pas par où commencer ou si je ne sais pas la réponse. Pourquoi? Parce que je veux montrer qu'on va travailler ensemble pour trouver une solution. Alors, tout le processus de brainstorming, je crois qu'il est important à voir. Je trouve que ça ouvre une culture d'apprentissage plutôt d'une culture de perfection. Et pour moi, la perfection, c'est le destructeur complet du SEP.
En quoi la solidité du SEP, du conseiller pédagogique, est-elle un préalable au soutien de celui des professeurs?
Mais la nature du rôle, c'est qu'on fait un peu de tout. Hein? Alors, en tant que CP, c'est extrêmement rare qu'on peut se permettre de dire « je ne suis pas capable » ou « je ne sais pas comment ». Se faire accompagner par un CP qui ne se sent pas capable, pas curieux, ce n'est pas quelque chose qui va se passer très bien.
En effet.
Alors, notre SEP, c'est comme une batterie qui nous donne de l'énergie de pousser à travers les nouveaux challenges. Parce qu'on sait très bien que la dernière fois, on a eu des obstacles, on a poussé et on a maîtrisé la tâche. Alors, si on peut tirer sur nos expériences antérieures et ce qu'on a appris et on amène ça avec nous, ça va vraiment augmenter notre sentiment d'efficacité personnelle.
Les outils numériques sont souvent présentés comme des facilitateurs ou des freins. Comment ils peuvent influencer notre sentiment d'efficacité personnelle?
Alors moi, je dis tout le temps avec le numérique, la seule constante, c'est le changement.
En effet.
Alors juste quand on commence à s'habituer, il y a une mise à jour, des problèmes techniques, ouais. L'Internet ne fonctionne pas. Alors un des plus grands obstacles, je dirais, quand on veut développer notre SEP, ça va être les variables qu'on ne peut pas contrôler. Le numérique, malheureusement, est pas mal hors de notre contrôle des fois. On peut se frustrer quand l'obstacle qu'on croise est hors de notre contrôle, mais il faut recadrer en défi. C'est une opportunité de faire demi-tour et de trouver une différente solution de ce qu'on a anticipé au début. C'est un challenge un peu de se forcer, mais si on recadre à la place d'être négatif, c'est comme un défi surprise. C'est quelque chose de positif.
Ça porte fruit après vers la suite.
Exactement.
Avec l'arrivée de l'IA qui bouleverse nos pratiques, comment tu vois évoluer le sentiment d'efficacité personnelle des CP?
Je pense que l'IA pose un risque de se questionner sur notre sentiment d'efficacité personnelle parce qu'il faut l'admettre qu'il y a des tâches qui me prenaient quelques heures à faire auparavant que l'IA peut probablement faire en quelques secondes. Si j'arrête ma pensée-là, c'est pas mal difficile de me douter de moi-même. Alors, il faut vraiment défendre notre propre valeur parce que je promets au moins à l'heure actuelle, il y a plus de choses que moi, je peux faire mieux que l'IA peut faire mieux que moi. L'IA, c'est un outil, comme tous les outils qu'on utilise dans la vie de tous les jours, qu'on peut accepter pour faciliter certaines tâches et pour complémenter notre travail, sans doute. Mais je crois qu'on a beaucoup de chance en tant que CP parce que c'est toutes nos expériences qui ont tellement de valeur dans tous les projets qu'on fait. Et le même projet peut se faire de mille et une différentes façons par mille et un CP. Alors, la complexité de ce qu'on fait, on est un peu gestionnaire de projet, un peu éducateur, on fait un peu de TI, un peu d'analyse de données. C'est ça qui m'impressionne chez les CP. Et l'IA peut toujours venir soutenir les tâches individuelles qui nous viennent moins facilement, mais jamais l'IA va être capable d'amener la touche personnelle et adaptée qu'apporte un CP.
Tu me rassures, on est encore utile, c'est encourageant.
Ça va bien.
Très intéressant tout ça, Amanda. Plusieurs trucs que je vais appliquer, entre autres le portfolio des réussites, ça me parle beaucoup. Donc, je pense que ça va m'aider à consolider mon sentiment d'efficacité personnelle. Merci beaucoup. À la prochaine.
Merci, Géraldine.
La série balado Les beaux rôles est une création d'Immersion CP, soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Université de Sherbrooke. Animation, Géraldine Lucier. Co-animation, Alexandre Dalpan et Marie-Noëlle Corriveau-Tendland. Scénarisation, Félix Arguin. Réalisation, Phonique. Merci à nos invités pour leur contribution.